carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Merci beaucoup, Franck Sorbier, de nous recevoir dans votre atelier. C'est un grand honneur, vous êtes maître d'art. Vous avez également collaboré et créé l'habit d'académicien de Zaouki. Nous allons en parler, l'académicien Zaouki. Nous nous intéressons beaucoup à votre parcours. En ces journées de métier d'art, pouvez-vous tout d'abord définir et nous parler de votre métier ? Est-ce que vous êtes plutôt artisan d'art, plutôt artiste, plutôt créateur, plutôt couturier ?
J'ai envie de dire que c'est plus une passion qu'un métier. Hein. Alors bon, c'est vrai que c'est lié de toute façon, mais c'est vrai que, alors est-ce qu'on peut dire que c'est un métier de passionné, un métier passionnant ? Moi, je trouve que ça peut vraiment toucher quasiment au sacerdoce aussi parfois, parce que en fait, ça fait vraiment partie intégrante de ma vie, quoi. Dans ce sens, c'est, je dirais, un peu plus qu'un métier, parce que ça prend...
Beaucoup de place.
Beaucoup de place, oui, dans la vie. Mais je crois que ce qui est important de dire, c'est que, bon, pour le monde extérieur, c'est relativement... Enfin, ça a souvent un rapport avec la paillette, hein, les métiers de la couture. Bon, moi, je trouve que c'est autant un métier de réflexion, de recherche, parce qu'il y a toute une partie quand même assez intellectuelle, quoi, avant de... Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est ça qui me plaît aussi.
Vous aimez réfléchir sur quoi ? Qu'est-ce qui vous touche ?
L'actualité peut me toucher. Je trouve que justement, en ce moment, on peut vraiment se poser des questions sur l'avenir de la haute couture parce qu'on est quand même dans une période extrêmement difficile. Et c'est vrai que la haute couture, c'est un peu tout le contraire de la réalité, quelque part. Ça fait partie du monde du rêve. Et en même temps, je trouve qu'aujourd'hui, la haute couture ne peut pas, à mon avis, hein, ne peut plus se permettre de rester comme ça dans sa tour d'ivoire. Je trouve que c'est important aussi qu'elle s'imprègne de l'air du temps, de ce qui est difficile, mais en le magnifiant, quoi. Ça, c'est aussi le propre de la couture. Mais voilà, je trouve qu'elle peut pas rester en dehors du coup, quoi, tout simplement.
Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous, finalement ? Est-ce que c'est créer plusieurs collections dans une année, ou est-ce que c'est tout simplement la partie finance ?
Finalement, en faisant que de la haute couture depuis une dizaine d'années, c'est deux collections par an. Alors, c'est vrai que le rythme est assez important, mais bon, pour ceux qui font du prêt-à-porter plus de l'homme, c'est encore plus tendu. Hein. Bon, ceci dit, ils ont des équipes aussi assez importantes. Ici, on est vraiment, je dirais, une toute petite famille, quoi. Donc, la difficulté, c'est plus effectivement les finances que les idées, parce que des idées, on en a toujours, enfin, on espère en avoir toujours. Après, c'est plutôt de les mettre en pratique. C'est pour ça, on parlait tout à l'heure de l'idée que c'est un métier de réflexion, de recherche, d'instinct, etc. Mais c'est aussi un métier de savoir-faire. C'est-à-dire qu'après, ces idées, il faut les matérialiser, parce que on peut avoir les meilleures idées du monde. Si on n'arrive pas à les mettre en musique ou en tout cas à les rendre visibles quelque part, c'est là aussi où...
Et vous allez très très loin justement dans la recherche, dans la création, jusqu'à sculpter pratiquement des robes autour des bustes. On croirait que le corps est mis à nu. Qu'est-ce qui vous pousse pour aller si loin ?
Je pense peut-être dans un premier temps, c'est qu'en étant plus jeune, j'ai eu un peu un refus de certaines choses. Et donc, je me suis rendu compte forcément que j'avais des lacunes. Donc finalement, faire une collection, pour moi, c'est l'occasion d'apprendre, toujours et encore. Donc c'est vrai que quand on part sur une idée comme ça, qui jaillit finalement de quelque chose qu'on a sous les yeux tous les jours, parce qu'en fait, ces coques en résine et fibres de verre, ce n'est ni plus ni moins que la base d'un mannequin de couture, qui après est recouvert d'un molleton et d'une toile pour qu'on puisse accrocher des épingles. Mais au départ... Bon, à part que là, on a poussé un peu plus, puisqu'on est plus sur l'idée d'un mannequin lingerie, puisqu'on voit aussi le bout du sein. Donc après, je dirais qu'on peut faire aussi le travail inverse. Il y a cette évidence, mais qu'on a sous les yeux, et tout d'un coup, il y a l'idée comme ça qui jaillit, comme une étincelle. Et après, on fait, je dirais, un travail de recherche, mais finalement pour conforter cette idée, pour voir si on ne s'est pas trompé et à quoi on peut la raccrocher. Et évidemment, tout de suite, on cherche dans l'histoire de l'art. Bon, forcément, il y a la Vénus de Milo qui apparaît en premier, puisqu'on voit que c'est une sculpture datée de 130 à 100 avant Jésus-Christ. Bon, on se dit que voilà, c'est l'éternel féminin. Bon, a priori, c'est ça qui m'intéresse aussi. Donc, et là aussi, on retombe sur le savoir-faire, je dirais, et l'art tout court. Et c'est vrai qu'au cours des siècles, on retrouve quand même cette fascination pour le buste féminin. Alors aussi bien à la Renaissance avec Gabrielle d'Estrée, avec les deux femmes torse nues dont une touche le téton de l'autre. Après, il y a évidemment dans les années 60 tout le travail pictural d'Yves Klein avec les empreintes en fait, de corps. Voilà. Et évidemment, c'était aussi l'occasion de rendre hommage à deux grands personnages de la couture, entre autres Schiaparelli, qui a beaucoup collaboré avec les surréalistes dans les années 30, et son fameux flacon buste, finalement aussi. Et Yves Saint-Laurent, pour sa collection Couture 69-70 avec les Lalanne, où il y a eu cette fameuse empreinte comme ça, mais en métal. Et c'est vrai que après la collection, en re-regardant des bouquins, je suis tombé comme ça sur une sculpture du Cameroun datée des années 30. C'était un bouquin sur les masques, alors c'était assez étonnant que ça soit dans cette catégorie. Et finalement, c'est ni plus ni moins que des seins avec un ventre comme ça, et donc là, c'est en bois. Donc finalement, on se rend compte que c'est ça aussi qui m'intéresse dans la haute couture. C'est non seulement l'idée d'intemporalité, mais c'est aussi, je dirais, une culture universelle. C'est ça qui doit... Je pense que la haute couture doit être universelle de toute façon.
Vous parlez de savoir-faire. Est-ce que vous voulez garder ce savoir-faire le plus longtemps possible du point de vue de ce qui se passe en ce moment dans la mode? Vous avez une grande renommée aujourd'hui et pourtant, quand on vient chez vous, ça reste un atelier plutôt chaleureux, pas très grand, on se sent à l'aise.
Oui.
C'est pas blockbuster, quoi. Aujourd'hui, la mode, c'est devenu un petit peu le miroir du luxe, de l'argent, de l'ostentatoire. Mmh. Est-ce que vous voulez garder justement ce côté simplicité?
En fait, il y a quelques années, les gens de marketing m'avaient demandé de décrire un peu...
Votre univers?
Oui, la maison idéale Franck Sorbier, comment ça se passerait? Et en fait, j'avais dessiné un petit immeuble, un peu à la Raymond Péné, quoi, donc ce côté très 50-60, avec comme ça des petits étages, etc. Et je trouve que dans tous les cas, on revient à cette notion, dans les années 90, ça a été un peu différent, et on revient à cette notion un peu particulière. Bon, en plus, c'est très parisien, du petit hôtel particulier qui abrite une maison de couture comme ça l'a été après-guerre ou avant-guerre, c'est-à-dire que toutes les grandes griffes de l'époque s'installaient dans un hôtel particulier ou dans un bel immeuble, etc. Bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le prêt-à-porter, les rues ont plus été envahies par des boutiques que par ce genre de lieu, finalement, de commerce et de rencontres aussi. Donc voilà, donc l'idée, c'est finalement ce que j'aime bien aussi dans l'idée de la couture, c'est ce qu'on appelait autrefois l'esprit maison. Voilà, donc des gens qui ont été formés dans la maison, des gens qui ont l'esprit maison, c'est aussi des gens qui vont tout faire pour que ça fonctionne, qui vont s'investir, etc. Ça, c'est quelque chose qui est important, quoi. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans l'anonymat d'une grosse boîte où il y a énormément d'employés, etc. Mais bon... En même temps, je pense qu'il faut aussi développer les affaires. C'est important parce que on peut pas faire perdurer non plus un art si le commerce ne fonctionne pas. Ça, c'est un peu compliqué. Et effectivement, dans le titre de maître d'art, il y a...
Vous faites partie des rares couturiers à avoir cette appellation.
Maître d'art, oui.
Maître d'art,
ouais,
est-ce
je suis
que
le seul, en fait.
Vous êtes le seul?
En fait, il y a des modélistes, mais il y a pas de couturier.
Fait.
D'ailleurs, quelque part, c'était un peu problématique pour les maîtres d'art parce que je crois que c'est le mot, c'est une nomenclature. En fait, ils m'ont donné le titre de tailleur. Parce qu'en fait,
il n'y a pas de nom spécifique.
Ouais, le nom couturier ne correspond pas, puisqu'en fait, le label de grand couturier est donné par le ministère de l'Industrie. Et les maîtres d'art, en fait, c'est le ministère de la Culture. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on a un pied dans chaque ministère, ce qui peut être utile à certains moments, ou en tout cas, c'est assez amusant. Puis moi, je n'aime pas franchement être dans un seul tiroir, quoi, donc ça m'arrange beaucoup. Et puis bon, je suis ravi aussi finalement d'avoir été nommé maître d'art parce que je rejoins en fait une famille qui m'intéresse, c'est-à-dire des gens comme Raymond Massaro et Le Sage, bon, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et voilà, bon, je trouve que c'est des monuments, c'est un peu les derniers tontons flingueurs du métier. Voilà, c'est aussi des gens, je trouve que dans l'idée de maître d'art, il y a le fait quand on dit savoir-faire, c'est je sais faire. Et ça, je trouve que c'est important puisque moi-même, je continue à faire pas mal de modèles à la machine. Alors bon, c'est vrai que c'est un peu une haute couture iconoclaste, parce que la haute couture, normalement, c'est 80% à la main. Moi, j'ai trouvé une technique que j'ai appelée la compression en hommage à César, c'est-à-dire je prends du tissu, je le froisse directement sous la machine et je le pique. Donc ça devient, finalement, avec un tissu de base, par exemple, comme une mousseline, ça devient encore un autre tissu. Et c'est vrai que ces morceaux de tissu que je place sur un mannequin en bois et que je relie entre eux, c'est-à-dire ces plaques que je relie entre elles, finalement, j'arrive à faire une robe qui est complètement moulée sur le mannequin, qui n'a aucune couture, finalement. Alors, juste une ouverture dans le dos pour pouvoir rentrer dedans. Mais voilà, donc, à partir du moment où j'ai trouvé cette technique qui a effectivement un rapport avec la sculpture, puisqu'en fait, c'est suivre le corps et le mouler, il y a aussi, je pense, cette notion de refaire un corps. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans une période de mode où le corps est un peu absent. D'ailleurs, ça se voit chez les mannequins, ça a été le cas justement de la collection de la dernière fois. Je crois que ça s'est exprimé encore de façon encore plus évidente et plus forte. C'est-à-dire que l'idée, c'était de recréer un corps féminin. Puisqu'aujourd'hui, les mannequins sont extrêmement minces, elles n'ont pas de poitrine, elles n'ont plus vraiment de taille.
Les femmes ne se reconnaissent pas dans les mannequins.
Non, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix puisqu'on prend ce qu'il y a sur le marché. Hein. C'est pas très gentil de dire ça, mais c'est clair qu'on travaille aussi. Parce que bon, je crois que c'est une question de facilité. C'est-à-dire qu'on travaille sur des mannequins en bois qui ont
aucune rondeur.
Certaines mensurations. Si, parce que les nôtres, ils sont. On est quand même sur 92 de tour de poitrine, 62 de tour de taille, 92 de tour de hanche. Donc on n'a pas des mannequins en bois qui sont maigres. Mais finalement, la maigreur de ces filles, elle se voit surtout finalement sur les bras. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire maigrir les os de toute façon. Et comme les filles sont de plus en plus grandes, de manière générale, elles ont quand même un squelette, quoi. Donc elles sont assez larges de face, mais de profil, elles sont un peu papier à cigarette, quoi. Mais finalement, comme les mannequins hommes, hein, aussi, enfin hommes entre guillemets, parce que maintenant, ce sont plus des garçons que des hommes. Et les filles, voilà, c'est... on n'est plus dans cette époque de femmes. On est plus dans une époque de filles, quoi. C'est...
Voire d'androgyne. On ne reconnaît plus les hommes.
Non, mais je crois que ça correspond à toute une philosophie du jeunisme, quoi, où tout le monde veut rester jeune, veut rester mince. Voilà, c'est un peu prolonger l'adolescence. Pourtant, je trouve que ce n'est pas la meilleure partie de la vie. Hein.
Franck Sorbier, comment vous est venue cette passion de la couture?
Je crois que ça a toujours été ancré. Bon, j'ai commencé à faire des choses pour moi. Finalement, je pense que c'est lié aussi à un chemin de vie. On est parti habiter avec ma grand-mère qui avait une machine à coudre et voilà, je commençais à faire mes armes là-dessus. Donc au début, c'était assez périlleux et puis finalement, je m'en suis sorti et d'instinct, j'ai commencé à faire des choses. Donc pour moi, parce que j'avais envie, je crois, justement à l'adolescence d'être différent. Je crois que c'est un moment où soit on a envie de se fondre dans la masse, soit on a envie au contraire d'exister et donc de le montrer, quoi. Et d'être différent. Donc voilà, ça a commencé comme ça et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Et puis bon, c'est vrai qu'un jour, j'ai découvert une publicité, en fait, qui était une photo de maquillage pour la marque Dior. Et à l'époque, c'était Serge Lutin, ce qui était directeur artistique du maquillage Dior. Et en fait, cette photo, elle avait vraiment quelque chose de, entre le mouvement dada et le surréalisme, mais avec énormément de délicatesse. Et pour moi, c'était de la haute couture, quoi. C'était vraiment, d'ailleurs, pour moi, c'est un grand couturier de la beauté, Serge Lutin. Et donc voilà, cette image m'a vraiment marqué. Et je trouve qu'en même temps, il y avait une grande notion de rêve. Et je trouve qu'il y a effectivement, quand on est ado, comme ça, qu'on vit en province, bon, même si on vit dans une province où on est gâté, puisque la Côte Basque, quand même, c'est un des endroits privilégiés. Je crois que le rêve, c'est une façon aussi de s'extraire de la réalité, quoi. Donc voilà. Donc j'ai pensé sûrement que ce métier allait être un grand rêve. Et je pense qu'il y avait aussi la notion de liberté qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que dans la création, il y a le mot liberté, je pense, est un des mots clés. Donc en étant accro au rêve et à la liberté, je pense que le choix était assez rapide. Puis bon, j'avais pas franchement envie de faire des études parce que bon, j'étais plutôt assez doué pour les langues puisque ça a été mon cursus au lycée, puisque j'ai appris l'allemand, l'anglais et le russe. Donc j'aurais pu peut-être suivre plutôt un cursus plus classique, devenir interprète ou prof. Bon, je me sentais pas franchement d'aller en fac, de faire des études. J'avais envie de faire une formation assez rapide et de me retrouver vite sur le marché du travail. Voilà, j'ai choisi une école à Paris et puis...
Et puis les étapes franchies...
Puis après, bah, j'ai commencé à travailler et puis voilà.
Et puis un jour, Zawuki vous demande de créer son habit d'académicien. Alors comment s'est passée cette aventure extraordinaire? Donc Zawuki, peintre, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Vous pouvez nous raconter comment s'est passée la collaboration? Il a porté l'habit le 23 novembre 2003, lors de la réception sous la coupole.
Ouais. Mais moi, j'étais pas à l'époque où on lui a fait son costume d'académicien, j'étais pas encore maître d'art. J'avais pas encore le label couturier, puisqu'on était encore une maison invitée, un membre invité.
Mais vous étiez déjà un grand créateur.
Oui, la maison avait déjà une certaine notoriété. Ben, ça s'est très bien passé. Hein.
C'est lui qui est venu vous voir?
En fait, c'est Françoise Marquet, sa femme, qui nous a choisis. Et bon, on s'est rencontrés très rapidement, quoi, puisqu'il a fallu prendre ses mesures, etc. Et puis bon, c'était bon, moi, évidemment, j'avais entendu parler de lui, Isabelle, qui a fait les Beaux-Arts, etc. Pour elle, c'était encore plus magnifique, parce que c'était vraiment... Enfin, elle connaissait depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et bon, ça s'est très bien passé, parce que c'est quelqu'un de très coopératif, qui est très sympathique et qui a beaucoup d'humour aussi, qui est assez malicieux. Voilà, donc... Et puis bon, c'est vrai que l'académie, ça peut paraître comme ça, très rigide. Et justement, le fait que lui ait cette personnalité quand même, quelqu'un qui aime bien rire, quelqu'un de très humain, ça donne aussi une toute autre dimension, quoi.
Et le fait de voir que le jour J, il portait cet habit, il fait par vous, ça vous a fait plaisir?
Oui, d'une part, et puis je trouve que c'est... bon, d'abord, l'endroit est magnifique, hein, cette coupole, c'est quand même, je trouve, un lieu extraordinaire. Et puis il y a quelque chose de très solennel dans ce genre d'instant, ce genre de cérémonies sont extrêmement solennelle. Et je trouve que la vie manque un peu de ce genre de...
rituel, comme de disait Claude Lévi-Strauss.
Tout à fait. Je trouve qu'on a perdu, justement. Alors, c'est vrai que ça devient tout d'un coup très élitiste. Mais je trouve qu'on manque un peu de ce genre de grand-messe, quoi, de ce genre d'instant. Et c'est vrai que c'est très touchant parce qu'il y a, bon, d'une part, il y a le costume d'académicien, même si ça a un côté comme ça très institutionnel, parce qu'on ne peut pas changer grand-chose, hein, finalement. Puisque, bon, la broderie existe. Ce qu'on peut changer, c'est les tonalités, varier un peu les verts, les jaunes, etc. Pour la forme, on peut un petit peu... Là, c'est vrai que l'idée pour Zawuki, comme il est issu, comme bon, il est français, mais d'origine chinoise et issu d'une famille de lettrés, l'idée, c'était de retrouver un peu le costume chinois. Donc, c'est vrai que les courbes étaient beaucoup plus douces, etc. On n'est pas parti dans la queue de pie très conventionnelle, etc. C'est devenu beaucoup plus doux, etc. Et je trouve que ça va bien aussi avec son personnage, avec sa peinture aussi. Mais non, c'était un moment très important. Et c'est vrai que voir tous ces hommes et quelques femmes, finalement, aussi... puisqu'il y a Jeanne Moreau et Simone Veil qui sont...
De plus en plus de femmes,
c'est
heureusement.
C'est bien, je trouve, d'ailleurs. Et voilà, je trouve que je me rappelle, effectivement, on voit les académiciens qui arrivent au fur et à mesure. Après, il y a le maître de cérémonie. Je ne connais pas exactement le nom. Hein,
Tout un rituel
voilà,
qui s'installe.
Je trouve que c'est quelque chose qui est assez...
Les tambours.
C'est quelque chose qui est assez... c'est marquant, en tout cas.
Est-ce que vous réitéreriez l'expérience ? Avec un autre académicien,
oui,
peut-être
oui, avec plaisir. Mais après, je crois qu'il faut... C'est vrai qu'avec Zawuki, j'étais extrêmement gâté. C'est très, très bien passé. Donc, il faut, je crois... Ce qui est important, quand même, justement, c'est un peu comme pour la haute couture. Hein, c'est compliqué d'habiller une femme avec qui le courant passe pas. Donc là aussi, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une entente, qu'il y ait
une symbiose, une sorte de...
Oui, d'affinité. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est clair.
Qui est-ce que vous rêveriez d'habiller ?
Oh, je ne sais pas qui c'est qui est pressenti pour rentrer à l'Académie prochainement, mais c'est vrai que bon, moi, je suis un fan depuis toujours de Simone Veil, donc j'aurais bien aimé faire son costume. Je trouve que c'est une femme qui a fait énormément. C'est une grande féministe, c'est une femme très engagée, et en plus, je trouve que c'est une très belle femme, quoi. Donc voilà, il y a quelque chose de solide aussi chez elle.
Si vous n'aviez pas été dans la couture, dans la haute couture, quel art auriez-vous aimé pratiquer ? Parce qu'on sent que vous aimez l'art, les arts, on sent que vous aimez la littérature.
Oui, alors je ne suis pas très bon à l'oral en général, mais à l'écrit, ça va un peu mieux. Non, je crois que ce que je préférerais, parce que je trouve que, en fait, je me rends compte que dans la haute couture, ce qui est agréable aussi, c'est les rencontres que l'on fait. Et c'est aussi faire plaisir aux autres et c'est participer à des moments de vie. Parce que c'est vrai qu'en haute couture, on travaille beaucoup sur les mariages. Donc c'est vrai que c'est un moment important pour quelqu'un, enfin pour un couple, pour une famille. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, j'adorais faire la cuisine, j'aime toujours. Alors maintenant, c'est un peu plus rapide. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est très à la mode, que je trouve qui est aussi une passion. Mais je pense que oui, je dirais la cuisine en numéro un, parce que je deviens de plus en plus gourmand en plus en vieillissant. Enfin, en tout cas, j'aime la qualité. Et sinon, j'aime toujours aimé la décoration, donc ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi.
Comment vous gardez le fil avec la création ? Quelles sont vos sources d'inspiration ? Qu'est-ce qui vous permet d'ouvrir votre œil pour avancer ? Parce que vous avez besoin de ces sources,
oui,
tout le temps,
à fait.
D'être inspiré.
D'une part, enfin, je pense que la première difficulté, parce qu'aujourd'hui il y a quand même énormément de monde sur le marché, hein, la première difficulté c'est de trouver sa propre écriture, c'est dire qu'est-ce que c'est le style Franck Sorbier, comment on l'inscrit aussi, comment on installe une griffe. Mais c'est vrai qu'après, il faut savoir faire évoluer aussi avec le temps, avec les années qui passent, un style, comment ça se passe, parce qu'on ne peut pas rester dans l'immobilité, c'est le contraire de la mode, bien que... J'estime que la haute couture est plus dans l'intemporalité quelque part. Il y a une phrase comme ça que j'ai repérée dans un livre, je ne me rappelle plus de qui elle est, qui dit qu'une belle chose est belle en elle-même, peu importe dans quel sens souffle le vent. L'idée de la couture, pour moi, c'est ça. La mode, c'est un peu autre chose. La mode, c'est fait pour être démodé, c'est fait pour susciter de nouvelles envies, ça a un rapport avec le changement. Donc, comment je le fais évoluer ? Je pense que soi-même, on évolue aussi, c'est-à-dire que quand je vois les premières collections de couture, bon, c'est vrai qu'il y avait une volonté, il y a une fraîcheur aussi, il y avait une insouciance. Donc on est beaucoup plus libre aussi dans sa façon de créer. Après, il y a une phase où finalement, on doit répondre aussi à la demande, quelque part, ce que les gens attendent de vous. C'est comment vous restez dans ce sillage. Donc il peut y avoir un moment comme ça d'endormissement, de confort, je dirais. Et puis bon, je crois qu'en général, en tout cas en ce qui me concerne, il y a le sursaut, c'est-à-dire tout d'un coup, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Comment ? C'est-à-dire même si les collections sont réussies, etc., je pense qu'il y a toujours cette idée de revenir à l'instinct, aux origines, et à retrouver finalement cette palpitation, c'est-à-dire de s'étonner soi-même. Donc s'étonner soi-même, c'est prendre des risques, c'est aborder les choses différemment. Et puis bon, je pense que les événements de la vie aussi vous amènent aussi à ce genre de confrontation. Et c'est vrai que par exemple, la collection de la saison dernière, finalement, c'est le manque de moyens qui a fait que cette collection a été traitée comme ça. Puisqu'au départ, j'étais parti sur... ça, c'est la, je dirais, le troisième G, finalement, d'idées. Il y a eu deux idées de collection avant. Et finalement, c'est quelque chose auquel j'avais pensé il y a longtemps, mais que je n'avais pas encore trouvé. Je ne savais pas comment l'exprimer encore, puisque j'aimais beaucoup cette idée d'esquisser quelque chose, d'ébaucher quelque chose, parce que d'une part, ça a un rapport avec, justement, là, on est dans l'apprentissage, dans cette envie d'apprendre et cette soif aussi d'apprendre, c'est-à-dire que l'apprentissage des beaux-arts, donc les cours de dessin, les cours de nu, de drapé, etc., d'une part, et d'autre part, quand on apprend à faire de la couture, comment on crée un volume en épinglant des choses sur un mannequin, etc. Donc c'est en alliant finalement ces deux mondes que finalement cette collection est née. Et le fait de faire à l'extérieur les bustes, ben ça nous a enlevé un poids en atelier ici, et finalement... Je dirais que c'était une collection de jupes, quoi. Donc c'était ça qui était intéressant aussi. C'est-à-dire que si on dissociait le haut du bas, finalement, les choses étaient portables. Mais en même temps, on créait tout d'un coup un étonnement et un sursaut, quoi.
Voilà. Et pour garder un regard frais sur le monde, est-ce que vous allez au musée? Est-ce que vous voyagez? Est-ce que vous aimez l'art contemporain? Qu'est-ce qui vous touche?
En fait, tout peut être source d'inspiration et tout peut me toucher.
Vous sortez souvent de l'atelier?
Ah oui, ça, j'ai un peu du mal à rester enfermé. Ça, c'est la chose la plus difficile pour moi, de rester entre quatre murs, quoi. La dernière expo que j'ai trouvée vraiment très, très réussie, enfin, qui m'a beaucoup plu, une expo qui s'appelle Danser sa vie, qui est à Beaubourg en ce moment. Voilà, je trouve que c'était très, très bien foutu, parce que c'est vraiment aussi la danse, aussi au travers de différentes époques. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. J'aurais pu dire danseur aussi, parce que je trouve qu'il y a, dans la danse, il y a l'effort. Je crois que c'est un peu justement tous ces métiers, c'est-à-dire qu'il y a un effort à fournir, il y a quelque chose qui peut être parfois difficile, il y a forcément des souffrances, alors encore plus dans la danse, parce que ça m'est arrivé, il y a une danseuse, une fois qui a défilé pour nous et elle est arrivée un soir pour son essayage, les pieds complètement ensanglantés, etc. Là, on souffre quand même dans sa chair, quoi. Ce n'est plus moral. Donc, danseur, pourquoi? Parce que forcément, d'une part, il y a le culte du corps, ça c'est aussi quelque chose, la beauté, hein, toujours, qui intervient. Mais il y a aussi effectivement cet effort qui disparaît complètement. Le danseur est doué, je pense qu'il arrive à faire oublier toutes les souffrances et tous les efforts qu'il a fallu faire pour arriver à cette excellence, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout devient léger et fabuleux.
Est-ce qu'il y a un vêtement, une œuvre de vous qui vous rend fier?
Ce que j'ai aimé, c'est ça dépend de... Justement, là aussi, on est dans une sorte de chronologie, quoi. Il y a un moment, je crois que ce qui est important, c'est trouver une ligne de conduite, un fil aussi. C'est-à-dire qu'en 90, je me suis fait connaître parce que j'ai fait collection de monoproduits, qu'avec des vestes. C'est comme ça que je me suis fait connaître. On a dit que j'étais le roi de la veste, etc. À l'époque, c'était plutôt en 90, j'avais 31 ans. Voilà, donc ça reste quelque chose dont je suis fier parce que je trouvais que c'était une approche qui était intéressante. Parce que à l'époque, j'estimais que le total look, il n'y avait rien de plus insupportable. Alors que bon, justement, si je ne proposais que des vestes, ben, je laissais la liberté totale, pas complètement totale, mais la liberté aux femmes de les mélanger avec ce qu'elles voulaient, quoi. Alors c'est quelque chose qui est très facile à faire en France, parce que je pense que les Françaises ont vraiment ce tempérament de ne pas être forcément total look et d'avoir leur goût à elles, etc. C'était beaucoup plus compliqué à l'étranger, notamment aux États-Unis, puisqu'en général, les femmes achètent le total look. Donc, s'il y a la veste, il faut soit le pantalon qui va avec, soit la jupe, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Après, ce dont je suis fier, c'est d'avoir trouvé cette technique de la compression, évidemment. Bon, ça, c'est un tournant dans ma vie, parce que, bon, avoir fait des vestes, c'était bien, mais... Finalement, j'étais pas le premier à en faire. Il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après, etc. La compression, je veux dire que c'est...
Vous l'avez inventé.
Voilà, c'est quelque chose qui est complètement... Mais c'est vrai que c'est devenu tellement évident pour moi aujourd'hui que c'est même pas la première chose à laquelle j'ai pensé, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui m'étonne aussi à chaque fois, parce que suivant les matières que je prends, alors c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que ce que j'aime, c'est le détournement des matières. Donc c'est vrai que si je prends de la mousseline, j'arrive à avoir une structure complètement différente. Si je prends du velours, le velours va prendre des reflets assez étonnants, etc. Si je prends du raffia, du brun raffia, ça va être encore autre chose, du ruban, etc. C'est-à-dire que même des matières qui sont a priori pas du tissu ou qui n'ont pas de largeur, etc., peuvent s'utiliser en compression. Donc à chaque fois, c'est un peu une surprise. Et je me dis, bon, il y a encore des choses devant qui peuvent être réalisées, qui peuvent... Voilà, je peux encore m'étonner. Mais je crois que ce qui m'a plu le plus aussi ces dernières années, c'est d'aborder aussi la façon de présenter les collections de manière différente. C'est-à-dire qu'il y a eu une saison toujours pour faute de moyens. Donc ça montre aussi une carrière malgré tout en dents de scie, mais où finalement on arrive à s'accrocher sur des idées. Puisqu'on a été la première maison à montrer sa collection haute couture sur Internet. C'est-à-dire qu'on avait envoyé un carton d'invitation avec un code d'accès et le jour J à telle heure, etc., les gens allaient sur le site et découvraient la nouvelle collection. Et en fait, on avait fait défiler en 3D les dessins de la collection. Et bon, ça, c'est une collection qui m'a marqué parce que d'une part, elle s'appelait les Passionnariats. Donc c'était un hommage aux femmes qui ont changé justement la face du monde et qui ont été vraiment des femmes importantes dans l'histoire. D'ailleurs, on a reçu à cette époque pas mal de prix par rapport à cette approche justement de présentation. Et il y a eu une autre collection qui a été importante, c'est plutôt que de faire un défilé avec seulement 4 mannequins et quelque chose qui ne pouvait pas être autre chose que quelque chose de répétitif, l'idée ça a été de tourner un film en 3 jours. Qui a été après projeté au Balzac le jour J du défilé. Donc, on a fait 2 séances, voilà. Et donc, ça, c'était quelque chose d'intéressant aussi, parce que tout d'un coup, écrire un scénario, dire, voilà, j'imagine tel vêtement dans telle situation, etc. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était d'une part d'avoir la volonté de faire un film entièrement en noir et blanc, et de se servir de souvenirs aussi de cinéma, donc aussi bien du cinéma muet comme Charlie Chaplin, Buster Keaton, mais aussi ce fameux film où il y a Bourville, je crois qu'il s'appelle Garou-Garou, Passe-Muraille, où il traverse les murs, comme ça il a un don. Et donc voilà, ça a été toute une histoire comme ça sur une 20aine de passages. Chaque vêtement portait le nom d'une rue et l'idée c'était toujours la même fille, dans le même endroit, mais avec un décor différent, une coiffure différente, etc. Et qui rencontrait des personnages différents. Donc il y avait en même temps, c'était une sorte d'Alice au Pays des Merveilles, mais un peu dada, surréaliste. Voilà, il y avait
original.
Beaucoup de clins d'œil, mais ce qui était surtout, je pense, intéressant, c'est cette démarche de dire... Au lieu de faire un défilé, je vais montrer les choses aussi différemment. Bon, en sachant qu'on avait quand même, le jour J, mis les vêtements sur des mannequins en bois pour que les gens puissent les voir de près aussi, puisque c'est important aussi, la haute couture doit être vue pour la qualité de son travail. Mais je crois que c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est dire comment on va présenter les choses de façon pas ordinaire, quoi. Parce que bon, un défilé, ça fait toujours de l'effet, des filles qui marchent, etc. Mais il y a... envie d'aller un peu plus loin, d'autant plus qu'en 2009, j'ai eu l'occasion d'avoir une rétrospective, c'est un bien grand mot, mais ma première monographie au Musée des Tissus de Lyon pendant 6 mois. Et bon, là, je me suis occupé de la scénographie. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé, etc. Bon, depuis 2 ans, on a monté une fondation en Suisse. Et donc là, il y a quelques pièces exposées. On attend un lieu beaucoup plus adéquat pour vraiment faire une muséographie, une scénographie qui soit intéressante, etc. Et aussi de développer dans cette fondation des rencontres aussi entre la mode et d'autres disciplines, par exemple exposer des photographes, des peintres, des sculpteurs ou faire uniquement des expos thématiques sur des sujets différents. Voilà. Donc ça, c'est aussi, je trouve, l'extension du métier. Bon, pour le moment, je suis trop feignant, je pense, pour apprendre la photographie, mais j'adore la photographie. En tout cas, celle des autres. Bon, voilà, peut-être qu'un jour, j'aurai un déclic, on verra.
Vous avez beaucoup d'idées, jusqu'à même créer un fonds de dotation. Est-ce que vous avez envie d'aider de rendre la haute couture plus accessible ?
Je trouve que c'est important, en fait, depuis cette expo, justement, à Lyon en 2009. Bon, j'ai eu l'occasion d'y aller 5 ou 6 fois, et donc de me balader. Il y avait du public. Et franchement, je trouve que, bon, c'est vrai que là, on parlait tout à l'heure de la haute couture aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente, etc. Tout le monde sait qu'il y a, même s'il y a de plus en plus de milliardaires et de millionnaires, il y en a beaucoup plus qu'autrefois, il n'y a pas tant de femmes que ça qui s'habillent en haute couture, parce que ça correspond aussi à une éducation, je dirais quelque chose qui s'est transmis aussi dans une famille.
J'ai l'impression que vous cassez un peu les schémas, c'est-à-dire que vous avez envie, pas seulement de voir des stars chez vous, mais aussi tout le monde. Est-ce que je me trompe ou pas?
Oui, en fait, ce que je trouve qui est important, c'est justement que la haute couture, c'est un monde, je ne sais pas si le mot élitiste est le bon mot, mais c'est réservé quand même à très peu de monde. C'est très, comme on dit en anglais, « happy few ». Donc je trouve que...
Vous voulez démocratiser?
C'est pas une question de démocratiser, mais je trouve que, quand vous allez dans un musée, vous n'avez pas que des gens extrêmement riches ou extrêmement élégants ou extrêmement cultivés ou qui appartiennent à un monde. Je veux dire, c'est ouvert à tout le monde. Et je trouve que, justement, la haute couture, en sachant qu'aujourd'hui, il reste peut-être 200 clientes dans le monde, si elle veut aussi perdurer, il faut qu'elle devienne culturelle. Enfin, en tout cas, c'est ma vision de la couture, une couture culturelle. Et humaniste. Alors bon, ça c'est encore peut-être une utopie, hein. Mais je trouve que justement, on se trompe souvent, mais il y a énormément de gens qui sont capables d'apprécier le beau, et il y a énormément de gens qui apprécient la mode et qui s'intéressent à la mode. Et je trouve que cette part de rêve de la haute couture, tout le monde ne peut pas se l'offrir, en tout cas la porter, mais tout le monde peut se l'offrir en la voyant. Et c'est vrai que un défilé haute couture, moi j'ai toujours, on va dire, une présentation plutôt haute couture. À l'époque où je suis rentré en haute couture, je faisais du prêt-à-porter. Donc comment différencier la haute couture du prêt-à-porter? Je me suis toujours dit, la haute couture, ça doit être un peu comme une messe. Donc c'est là où on rejoint justement les... C'est une cérémonie. Et donc, ouvrir ça au grand public, je trouve que c'est important parce que c'est faire aussi passer cette idée que la haute couture doit être... culturel, que ça peut être un spectacle, que c'est un beau spectacle dans tous les cas et que ça peut intéresser la plupart des gens. Donc je ne sais pas si démocratiser c'est le bon mot parce que finalement il y a des mots qui sont galvaudés, c'est comme le mot luxe, on a mis le mot luxe, on a acheté de la sauce tomate de luxe, on a acheté de tout de luxe. Bon, finalement, aujourd'hui, je trouve que il faudrait que je regarde vraiment la définition de démocratiser, mais je trouve que l'idée, c'est plutôt rendre accessible la beauté et la qualité et un savoir-faire aux gens qui ont envie de venir le voir. Bon, de toute façon, les places sont assez limitées, hein, non pas le Stade de France, quoi. Donc, puis ça servirait à rien parce qu'on verrait rien. Donc,
Dans toute l'histoire de la haute couture, y a-t-il un créateur que vous aimez particulièrement?
Oui, Serge Lutens, bien
sûr.
Ou
une créatrice,
oui,
Serge Lutens.
Serge Lutens, parce que je trouve que c'est aussi... En fait, j'aime les gens qui sont polyvalents. J'aime bien cette idée de construire un univers. Donc, Serge Lutens, c'est plus lui qui fait les maquillages, hein, mais il sait faire un maquillage, il sait faire une coiffure, il crée un vêtement pour aller sur la photo. C'est lui qui fait la photo, donc il y a...
complémentarité.
Voilà, il y a vraiment cette idée d'un univers global, et je trouve que c'est important aussi... Et aussi faire des images qui restent. C'est-à-dire que, bon, on sait qu'il y a des images qui datent d'une époque, etc., puisqu'elles correspondent aussi, je crois qu'il y a des ambiances qui reflètent des époques. Donc c'est comme ça qu'on arrive à repérer un peu les dates des photographies, mais n'empêche qu'elles restent des photographies qui sont entières, qui sont volontaires, singulières, oui, qui sont des images de qualité, tout simplement.
Et qui ont marqué la société, peut-être aussi.
Oui, qui sont vraiment de... Oui, mais qui sont des images qui vont rester aussi. Et je dirais que quelque part, c'est peut-être un peu présomptueux, mais c'est un peu ma quête, quoi. C'est un peu cette idée de, sans devenir un peu plan-plan et ennuyeux, c'est de devenir un intemporel. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse.
Dans un siècle ou deux, que voudriez-vous que l'on retienne ou que l'on dise de vous?
Alors, je me suis...
Peut-être rien.
Non.
Peut-être quelque chose.
Je ne sais pas si finalement c'est par rapport au travail que j'aurais fait. Hein. Je ne sais pas si c'est par rapport à ça. Je pense que c'est là où on revient sur la question du début. C'est finalement la création, le métier, la passion est partie intégrante de vous-même. Je crois que j'aimerais qu'on dise de moi, c'est quelqu'un qui gagne à être connu.
Merci beaucoup, François Sorbier.
C'est moi.